Oh non, monsieur, avec Jupiter et Uranus en Sagittaire, je ne vois aucun cambriolage chez vous dans un avenir proche.
Vous êtes sûr, hein?
Oh, bah tout à fait sûr. Vous savez, les cartes ne mentent jamais, monsieur.
Pour partir tranquille, confiez plutôt votre maison aux professionnels Vérissure. Vérissure par Securitas Direct, numéro 1 européen des alarmes télésurveillées.
Par contre, je vois quelqu'un devant chez vous avec un pied de biche en ce moment.
Pardon? Pour une installation gratuite, appelez vite le 3112 ou rendez-vous sur verissure.fr.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Pat d'un côté, Henri du sien avait demandé à Franck Ferrand un sujet sur la Révolution anglaise. Ils vont être heureux aujourd'hui, je pense. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Nous avons un peu trop tendance, de ce côté de la Manche, à oublier que plus d'un siècle avant la Révolution française, l'Angleterre avait accompli la sienne, ou plutôt les siennes, car il y a bien eu deux révolutions là-bas. C'est un sujet passionnant dont Bernard Cotteret connaît le moindre détail. Je l'ai évidemment convié à nous rejoindre cet après-midi.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Adrien sur les origines du tatouage.
Un sujet qui pourrait justifier une émission tout entière. Pour le moment, nous avons rendez-vous avec Cromwell, avec le roi Charles Ier. Charles Ier risque bien de perdre la tête.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Charles Ier d'Angleterre est ce roi évidemment qui est devenu mondialement célèbre pour avoir été exécuté, tué par son peuple, vous imaginez. Alors nous avons fait aussi bien ou aussi mal, je ne sais pas comment dire, depuis bien entendu. À l'époque ça a été tout à fait extraordinaire. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce roi qui était monté sur le trône à 25 ans, qui était un esthète, un amateur d'art, de peinture en particulier, ce roi n'a pas toujours été impopulaire, loin s'en faut. Il avait hérité d'un royaume en difficulté, marqué par les divisions entre les royaumes d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Il voulait unifier tout ça. Alors bien sûr, il y a des divisions religieuses qui sont très importantes et auxquelles il est forcément bien étranger. Il hérite de cette situation avec une église officielle, anglicane, dont le roi est le chef, vous le savez, depuis Henri VIII bien sûr. Et en même temps, Charles Ier est marié à Henriette Marie de France, la fille d'Henri IV, qui elle évidemment est une princesse catholique, même si son père a si longtemps été protestant. Très autoritaire du reste. D'autre part, le roi gouverne sans parlement. Il n'a besoin de lui que pour lever les impôts, car il y a la fameuse charte en Angleterre avec ce consentement à l'impôt. Les tentatives de réformes religieuses en Irlande, et aussi tout le problème des plantations qui obligent à trouver des milliers d'Irlandais à partir. Ils sont expropriés littéralement. Tout ça a entraîné de vives tensions. Tension avec les Irlandais, tension avec les Écossais, bien entendu. Et en 1640, le roi a besoin de lever de nouveaux impôts dans la guerre contre l'Écosse. Le Parlement en profite pour exposer ses griefs. Ça, c'est classique, hein, dans tous ces États royaux du Moyen-Âge, de la Renaissance, du début de l'époque moderne. À chaque fois qu'un roi veut de l'argent, eh bien, le Parlement en profite pour lui ménager son soutien, évidemment. Et en l'occurrence, Charles Ier va dissoudre le Parlement. Il est obligé de faire appel à un nouveau Parlement quelques mois plus tard, toujours pour la même raison, pour consentir à l'impôt. Or, à partir de 1642, le roi se trouve en bras de fer avec un Parlement de plus en plus puissant. Et ce qu'on a oublié et qui est incroyable, c'est que c'est un Parlement qui dispose de sa propre armée, qu'il a confié au comte d'Essex. Donc ça, c'est très important. Dans ce camp figure un certain Oliver Cromwell, bien entendu. Les parlementaires vont bientôt être aidés par les Écossais, ils vont remporter des victoires décisives. Quelques années plus tard, Charles Ier doit se rendre aux Écossais, avec qui il va se réconcilier, si l'on peut dire. Mais Cromwell gagne contre les mêmes Écossais et Cromwell estime que Charles Ier dans cette affaire n'a pas tenu son rôle, qu'il doit être jugé pour trahison et c'est le fameux procès qui va avoir lieu en janvier 49. Nous y sommes le 20 janvier 1649, un carrosse à 6 chevaux est en train d'emmener le roi d'Angleterre du château de Windsor à Westminster Hall. Le roi, c'est bien sûr Charles Ier, qui depuis plusieurs semaines a été placé en détention. Il a été dans différents endroits. Il a séjourné à Hurst Castle dans le Hampshire, puis au château de Windsor. Tout de noir vêtu, nous raconte Bernard Cotteret, il arborait sobrement l'étoile de l'ordre de la Jarretière. Tandis qu'il toisait les galeries où se pressaient les spectateurs, tout le monde put remarquer le gris de sa barbe et de ses cheveux et les poches sous ses yeux. Le roi avait beaucoup vieilli, mais il s'était affirmé dans l'épreuve. Désormais, son bégaiement avait disparu. Et pour mieux signaler qu'il était encore le roi et qu'il ne reconnaissait pas le tribunal devant lequel il comparaissait, Charles garda obstinément son chapeau vissé sur la tête. Tout était dans le chapeau, ou seul témoignage des splendeurs passées, dans la canne aux délicats pommeaux d'argent. Il y a quelque chose de crâne et de fier dans ce monarque qui va affronter ceux qui l'accusent. Il est midi, la haute cour quitte la chambre, elle est précédée du Parlement, elle se rend solennellement à Westminster Hall, dans une vaste salle grise. Il faut imaginer, là, il y a des marches, une salle voûtée, sur le pavé de laquelle, de place en place, vous avez des petites plaques de cuivre qui indiquent les lieux où se sont tenus les différents prévenus, hein, ceux qui ont déjà été jugés. 16 officiers armés de pertuisanes, de grandes sortes de grandes lances, précèdent le cortège. Le Lord Président de la Haute Cour de Justice, John Bradshaw, s'avance. Il est à la tête de la cour. Il prend place sur un fauteuil de velours cramoisi. Les membres de la cour s'assiedent, eux, sur des sièges de drap écarlate. À leurs pieds se trouve le greffier devant une table couverte d'un riche tapis de Turquie et sur laquelle reposent l'épée et la masse, les symboles de la justice à l'époque. Des hommes d'armes se tiennent en avant de la cour, aux deux extrémités. Là, les portes s'ouvrent, la foule entre. Le silence est bientôt rétabli. Le greffier lit l'acte des communes qui institue la juridiction de la haute cour. Charles Ier va être jugé par 135 commissaires, mais seulement 68 vont réellement participer au débat. Ces formalités accomplies, c'est un procès qui est en train de s'ouvrir, un grand procès politique, peut-être le plus grand procès politique. Les formalités sont accomplies et Bradshaw ordonne qu'on fasse entrer le prévenu, qui n'est autre que celui qu'on appelle donc à ce moment-là Charles Stuart. Ça rappelle le Louis Capet des révolutionnaires français. Ça le préfigure plus exactement. Alors, évidemment, on sait très bien quelle va être l'issue du procès. Je crois que ça ne fait l'ombre d'un doute pour personne. Quelques semaines plus tôt, 45 députés ont été arrêtés, des parlementaires fidèles au roi, comme par hasard. On parle de parlement croupion pour les désigner. Et d'autre part, la Chambre des communes s'est érigée en haute cour de justice chargée de juger le roi. Il est de notoriété publique que Charles Stuart, présent roi d'Angleterre, non content des usurpations que lui-même et ses prédécesseurs ont faites des droits et des libertés du peuple, on imagine l'énoncé de tous les griefs qui lui sont faits dans ce style révolutionnaire qui en annonce là encore un certain nombre d'autres. L'ordonnance a été, et ça il faut le souligner, c'est très important d'en être conscient, cette ordonnance, elle a été rejetée par les lords. Eh bien tant pis. On a remplacé ces derniers par les membres des communes, qui eux évidemment sont beaucoup moins favorables au roi, sont lui-même opposés à la monarchie. Et à partir du moment où ce sont eux qui vont juger, en réalité, évidemment le roi n'a plus aucune chance de s'en sortir. Alors, ce fameux 20 janvier 1649, il s'assoit à la barre, si je puis dire, il n'y a pas vraiment de barre à l'époque. En vérité, il aurait dû s'asseoir sur la sellette, mais pour le roi, on a préparé un fauteuil de velours cramoisi, il faut le souligner. Le président Bradshaw se lève, il déclare que les communes assemblées en parlement poursuivent le roi pour crime de sang, Inquisition for Blood. La liste est longue, l'auteur des dites guerres inhumaines, cruelles et sanguinaires, sans compter ses trahisons, meurtres, rapines, brûlements, dégâts, désolations, dommages et malheurs de cette nation. Ça fait beaucoup de chefs d'inculpation pour un seul homme. Les historiens racontent que c'est à ce moment que la canne du roi tombe, le pommeau lui glisse des mains littéralement, le roi doit le ramasser lui-même. C'est-à-dire que vous imaginez bien que dans un cas normal, on se serait précipité pour venir ramasser la canne du roi. Mais là, il va falloir que Charles Stuart apprenne maintenant à se confronter à la vie et à l'adversité seul, tout seul. «
un extrait de Zadok the Priest de George Friedrich Handel par le chœur d'enfants de Cambridge, une musique à retrouver dans le coffret des musiques royales de Stéphane Bern. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur le procès et l'exécution de Charles Ier en 1649.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
La Révolution anglaise est au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, vous relatez le procès et l'exécution du roi d'Angleterre Charles Ier en 1649.
Qui êtes-vous ? Demande le roi Charles à ceux qui ont décidé de le juger. Par quelle autorité suis-je ici ? J'étais en train de négocier avec mon Parlement et vous m'amenez ici par la force. La Constitution d'Angleterre, c'est un roi en Parlement, donc ensemble, un roi, une chambre des communes et une chambre des lords. Où sont les lords ? Et le roi, c'est moi. Est-ce une façon d'amener le roi à son Parlement ? J'ai défendu mon devoir et ma prérogative. Vous allez commettre un péché. Bradshaw, en face, ne se laisse pas intimider. L'autorité de la cour est celle des communes. Au nom du peuple d'Angleterre dont vous êtes le roi élu, dit Bradshaw. La monarchie d'Angleterre n'est pas élective, répond Charles. Mais elle est depuis près de 1000 ans un royaume héréditaire. Telle est votre opinion, ce n'est pas celle de la cour. Alors là, si je puis dire, ça commence mal ce genre de débat. Il faut dire que à l'issue de la première du premier échange, de la première séance, lorsque le roi quitte la salle, il est acclamé par le public. Mais ça ne laisse pas présager pour autant d'une issue favorable. Dès le lundi 22 janvier, c'est la deuxième audience, on est toujours en 1649 pour ceux qui nous rejoindraient, bien entendu. Charles Ier va être applaudi de nouveau. De nouveau, il refuse de répondre. Il remet en cause l'autorité de cette chambre qui prétend le juger. Ce qui exaspère évidemment Bradshaw. Sire, il faut que je vous interrompe ce que je ne ferais pas si ce n'était que ce que vous faites contrevient aux règles de cette chambre de justice, lui dit-il. Et Charles Ier réplique « Quoique je ne fasse pas profession d'avocat, je sais les lois aussi bien qu'aucun gentilhomme qui soit en Angleterre. » Et quand on parle de loi, et lorsqu'on parle de droit naturel en Angleterre, on est tout de suite écouté, évidemment. C'est une nation qui a inventé tout cela, donc qui connaît ces choses. L'un des plus vifs échanges va porter sur la définition de la raison. Il est vrai que vous parlez des lois et de la raison, il est nécessaire qu'il y ait l'un et l'autre, et tous deux sont contre vous. Sire, les décrets des communes d'Angleterre assemblés en ce Parlement, c'est cela la raison du royaume. Ce sont eux qui ont donné cette loi selon laquelle vous devez gouverner. Le roi répond, je ne puis comprendre comment un roi peut être réputé malfaisant, mais selon toutes les lois dont je n'ai jamais ouï parler, permettez-moi de vous dire que chacun, y compris un malfaiteur, peut remettre en cause une procédure et s'interroger sur sa légalité, comme je le fais aujourd'hui devant vous. Je demande que ma raison soit entendue, et si vous refusez, eh bien, vous niez la raison. Voyez qu'il y a, de la part de Charles Ier, ce refus de reconnaître la légitimité de ceux qui prétendent le juger. Même chose le 24, le 25 janvier, c'est le moment où sont entendus tous les témoins, vous savez. Et puis, ce 25 janvier 1649, à la fin de la séance, le verdict tombe. Alors le verdict, il ne va surprendre personne, bien entendu que c'est la condamnation qui a été votée. Le lendemain, à huis clos, on rédige la sentence. Alors il faut la débattre, hein, cette sentence, dans tous ses attendus, bien entendu. Elle est adoptée, elle est prête, et le 27, le roi entre dans la salle. À ce moment-là, il est accueilli par des cris « Exécution, justice, exécution !» Il demande la parole, et le président la lui donne, cette parole. Je demande à être entendu dans la chambre peinte, donc une des chambres de Westminster, par les lords et les communes, déclare le roi, sur une proposition qui importe bien plus à la paix du royaume et à la liberté de mes sujets qu'à ma propre conservation. Évidemment, il ne sera pas entendu. La cour se retire. Cromwell, qui fait partie de ce parlement croupion, comme on l'a surnommé depuis, ce parlement qui doit juger le roi, répond à ceux qui hésitent à voter la mort. « Ne savez-vous pas que c'est le premier des délinquants » demande-t-il. Puis le président adresse un long discours grave à cet auditoire qui est là et qui boit chaque parole. Il justifie l'acte d'accusation. Évidemment, le roi l'écoute avec gravité, la sentence est lue. L'acte de condamnation porte 59 signatures, mais il faut dire que de nombreux paraphes ont été griffonnés et sont parfaitement illisibles. Je précise cela parce que dans ce genre de procès, dans ce genre de sentence, malheureusement, ce ne sera pas la dernière fois. On a souvent des espèces de signatures comme s'ils n'étaient pas toujours tous très fiers de signer. Pour Cromwell, c'est suffisant. Nous lui couperons le cou, avec sa couronne sur la tête s'il le faut, dit Cromwell. Singulier personnage sur lequel je vais revenir à l'envi avec mon invité aujourd'hui, Bernard Cotteret. La cour se lève, le roi cherche à parler, il n'y arrive pas, les soldats l'emmènent déjà et son exécution est fixée au mardi 30 janvier. On le transfère au palais Saint-James, au milieu d'une foule imposante, et comme depuis le début de son procès, on peut dire qu'il garde parfaitement sa sérénité, Charles. Il interdit sa porte à son neveu, le prince électeur, et aux quelques lords fidèles. Il ne veut voir que ses enfants rester en Angleterre, la princesse Elisabeth, 12 ans, Henry, le duc de Gloucester, qui a 8 ans. Ce sont évidemment des moments d'adieu et évidemment des moments déchirants.
Merci d'avoir choisi Europe 1, vous écoutez au cœur de l'histoire et quand vous le souhaitez, vous pouvez réagir, nous envoyer vos messages, vos questions via la page Facebook de l'émission, par mail europe1.fr, via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Au cœur de l'histoire revient dans un instant et Franck Ferrand, vous continuerez de nous raconter le procès et l'exécution du roi d'Angleterre Charles Ier.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de la Révolution anglaise, nous suivons avec vous, Franck Ferrand, les pas du roi Charles Ier en direction de l'échafaud en 1649.
Oui, il est 4h du matin dans la nuit froide, humide de Londres. On est au palais Saint-James, dans la chambre de Charles Stuart, comme on l'appelle maintenant, et sur un matelas étendu à même le parquet, sommeil, essaie de dormir Sir Thomas Herbert, qui est le confident du roi. Charles Stuart s'est levé à 4h, il a mis une robe de chambre, il s'agenouille près de la cheminée et il va prier comme ça pendant 1 heure. Et à 5h, il demande à être paré comme un marié et à être bien peigné. Vous avez remarqué que depuis le début du procès, il tient beaucoup à son apparence, il refuse tout laisser aller. Et d'ailleurs, il va dire à Herbert « Il me faudrait une seconde chemise, car dans une telle saison, je pourrais trembler de froid et les spectateurs abusés croiraient que c'est de peur ». Il va passer des bas de soie, des manchettes élégantes, un col en point de gêne. Il chausse ses souliers à boucles d'or. Il prend la communion des mains de l'évêque de Londres. Il va grignoter. Il a d'abord refusé de manger quoi que ce soit. Puis finalement, il va grignoter un morceau de pain, boire un verre de vin de France. Il emporte un petit bonnet de soie dont il se coiffe ordinairement pendant la nuit. L'exécution doit avoir lieu à midi. Alors le roi s'assied dans un fauteuil et il attend. On l'a escorté un peu avant midi. Et il faut imaginer les halbardiers qui l'ont escorté jusque à travers une galerie, à travers la salle des banquets. Une des fenêtres de cette pièce qui est percée en porte pour la circonstance donne de plein pied sur un immense échafaud qui a été dressé pour la circonstance et qui est entièrement tendu de noir. Et sur un tapis noir également se trouve le billot sur lequel est appuyée la hache, car en Angleterre, on décapite à la hache et non pas à l'épée comme en France. Et là, le roi va s'adresser à ceux qui l'entourent. « J'ai fort peu de choses à dire, c'est pourquoi je m'adresse à vous et vous dirai que je me tairais fort volontiers si je ne craignais que mon silence ne donnât sujet à quelques-uns de croire que je subis la faute comme je fais pour le supplice. Mais je crois que pour m'acquitter envers Dieu et mon pays, je dois me justifier comme bon chrétien et bon roi et finalement comme homme de bien. » Tout le monde sait que je n'ai jamais commencé la guerre avec les deux chambres du Parlement et j'appelle Dieu à témoin. J'ai de la charité, à Dieu ne plaise que j'en impute la faute aux deux chambres du Parlement. Il n'est besoin ni de l'une ni de l'autre. J'espère qu'elles sont exemptes de ce crime, car je crois que les mauvais ministres ont été les causes principales de tout ce sang répandu. C'est une scène intensément dramatique qui va beaucoup inspirer évidemment Alexandre Dumas dans son roman 20 ans après. Vous savez, la fin des Trois Mousquetaires, à la vue du roi si calme, si noble, si digne, le silence s'était à l'instant même rétabli, écrit Dumas, de sorte que chacun put entendre le désir qu'il avait manifesté de parler. À cette demande, celui à qui elle avait été adressée avait sans doute répondu par un signe affirmatif, car d'une voix ferme et sonore et qui vibra jusqu'au fond du cœur d'Athos, car Athos est là, qui suit déjà, le roi commença de parler. Un bruit pareil à celui qu'aurait fait l'instrument de mort remué sur le billot se fit entendre. Le roi s'interrompit. « Ne touchez pas à la hache, dit-il. » Alors on sait qu'en vérité, le roi Charles a dit « ne touchez pas à la hache » parce qu'il craignait qu'on abîme le tranchant de la lame et que donc le supplice soit plus douloureux et encore plus pénible. « Et il reprit son discours où il l'avait laissé, » écrit Alexandre Dumas. « Le discours fini. » Un silence de glace s'établit sur la tête du comte. Il avait la main à son front et entre sa main et son front ruisselaient des gouttes de sueur. Quoique l'air fût glacé, ce silence indiquait les derniers préparatifs. Donc le roi fait très attention toujours à ses cheveux. « Mes cheveux sont-ils bien ?» dit-il. Et il se tourne vers l'évêque Juxton, vers l'évêque de Londres, et lui lance, vous savez, cette célèbre apostrophe « Remember, souvenez-vous ». Que veut dire ce « souvenez-vous » C'est une des questions que j'ai très envie de poser à Bernard Cotteret, bien entendu. Il ajoute « Placez le billot de façon qu'il soit ferme. Il est ferme, sire. Je ferai une courte prière et quand j'étendrai les mains... Alors la suite, vous la devinez, nécessairement. Bonjour Bernard Cotteret.
Bonjour Franck Ferrand.
J'ai beaucoup de questions à vous poser sur le procès et l'exécution de Charles Ier, mais aussi sur tout le reste de cette première révolution et de celle qui suivra quelques décennies plus tard.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
La révolution anglaise et la mort du roi Charles Ier sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, le professeur émérite à l'université de Versailles-Saint-Quentin, Bernard Cotteret, spécialiste de l'histoire des mondes anglophones, auteur du livre « La révolution anglaise 1603-1660 » paru aux éditions Perrin.
Ça c'est l'ouvrage de référence sur cette révolution anglaise qui s'étend quasiment sur les deux tiers d'un siècle en fait, Bernard Cotteret. L'événement que je viens de relater est peut-être le plus dramatique, c'est en tout cas celui qui, de ce côté de la Manche, a fait le plus grand effet, y compris à l'époque. Ça a été quand on a annoncé l'exécution du roi d'Angleterre. Il ne faut pas oublier qu'on est en pleine fronde hein, de chez nous.
C'est effectivement le moment le plus tragique, celui de cette mort, qui paraît incompréhensible évidemment pour les spectateurs du continent. Comment peut-on aller jusqu'à juger premièrement et exécuter deuxièmement un roi? Il y a là quelque chose qui défie véritablement l'entendement. Et je dirais que cette faute, entre guillemets, est tellement grave qu'on essaie de lui donner une explication qui est une explication d'ordre métaphysique. Et Alexandre Dumas, qui est un merveilleux conteur, évidemment, lorsqu'il prend cette forme, cette formule « remember », a compris lui aussi une chose essentielle, c'est que les royalistes allaient se battre en particulier sur le terrain qui est le terrain de la mémoire et j'allais dire de la remémoration. Et donc on va remémorer la mort de Charles Ier dans le camp royaliste, et évidemment cela va servir à défendre cette cause elle-même, la cause des royalistes.
Et ce terme « remember » va servir pendant des siècles, puisqu'au moment de l'exécution du roi Louis XVI, on va voir ressortir hein, cette injonction « remember », toujours quand on tue un roi d'une certaine manière, on s'attaque à la mémoire, c'est ça l'idée.
Il y a une stratégie de la mémoire dans le camp des royalistes, et ce qui est très important, c'est que comme ce crime paraît absolument impensable et impensé, on va se retourner vers le grand crime de l'histoire pour les chrétiens, qui est évidemment la mort et l'exécution de Jésus-Christ. Et donc, le personnage de Charles Ier qui devient une espèce de second Christ, et la littérature royaliste qui se développe dès 1649 fonctionne justement sur cette identification entre le roi Charles Ier et Jésus-Christ.
Il faut dire que du Christ, Charles Ier possède un certain nombre d'attributs. D'abord le physique, si je puis dire. Hein. Il a ce grand visage émacié, ce regard immense que l'on voit très bien sur les très beaux tableaux de Van Dyck, bien sûr, qui a immortalisé ce roi. Hein. Les grands chefs-d'œuvre de Van Dyck sont des portraits du roi Charles Ier. Et puis il y a cette dignité, cette très grande noblesse dont il fait preuve jusqu'à la toute dernière minute. Il a été, comme Louis XVI, dans son genre d'ailleurs, il a été assez exemplaire devant la mort et devant le procès. Hein.
Ce qui est extraordinaire chez Charles Ier, je dirais, bien avant ces événements tragiques, c'est que c'est un roi qui aime d'abord la peinture et qui, je crois, porte une très grande attention, effectivement, à son apparence, vous l'avez dit.
À l'image qu'il va laisser,
au moment de son procès, évidemment. Et tout cela est organisé et la propagande royaliste va éditer un ouvrage célèbre qui s'appelle Le Portrait du Roi dans ses souffrances. Et évidemment, l'iconographie de ce texte fait penser immanquablement à un recueil de dévotion pieuse où est évoquée la mort de Jésus-Christ.
Ça a été écrit de cette manière.
C'est écrit de cette façon.
Alors, justement, puisque vous parlez du règne et puisque vous mettez l'accent sur cette dimension liturgique, d'une certaine manière, il faut bien souligner la dimension religieuse qui accompagne les événements dont nous parlons et qui est importante.
Tout à fait. On a deux systèmes religieux, entre guillemets, qui se font face. Une première religion qui est une religion, j'allais dire, iconoclaste, qui détruit effectivement les images, qui sera celle des puritains.
Et c'est celle de Cromwell. Hein.
Celle de Cromwell. Et de l'autre côté, avec le roi, on a au contraire une exaltation de l'image et l'image
La religion pieuse, anglicane très proche d'une religion catholique,
très, très
d'ailleurs.
Très proche du catholicisme sur ce plan. Et avec beaucoup d'artistes qui, d'ailleurs, sont des artistes qui viennent du continent. Il y a des artistes italiens, il y a des artistes flamands en particulier. On pense évidemment à Van Dyck en tout premier. Et tout cela nous rappelle opportunément que l'épouse de Charles Ier, Henriette Marie, est une fille d'Henri IV, comme vous l'avez dit. Et puis aussi, par là même, une petite fille de Marie de Médicis. Donc elle a aussi toute cette culture italienne qui est derrière elle. Et Charles Ier aime la peinture. Il aime la peinture italienne en particulier. Et vous savez que après sa disparition, le premier qui va faire main basse, il faut bien le dire, sur les collections de peinture de Charles Ier, ce sera notre Mazarin.
Évidemment, tout ça va finir de l'autre côté de la Manche, un peu l'inverse de ce qui se passera dans les années 1790-1800 après la paix d'Amiens. Ça nous entraînerait un peu loin, ça. Audrey nous pose via Twitter la question sur l'éventuel lien de parenté entre cet Oliver Cromwell dont nous allons parler maintenant et le Thomas Cromwell qu'Henri VIII avait fait assassiner quelque temps plus tôt.
Alors il y a un lien de parenté, mais ça n'est pas un lien du sang. C'est-à-dire que le nom de Cromwell a été repris par une autre famille qui donc se réclame ipso facto du ministre, principal ministre d'Henri VIII, qui a été l'un des grands artisans de la réforme protestante, effectivement, au XVIe siècle.
Alors qui est-il, cet Oliver Cromwell, et d'où sort-il ?
Alors cet Oliver Cromwell est un personnage tout à fait extraordinaire, parce que c'est quelqu'un qui va se révéler sur le champ de bataille. C'est-à-dire que Oliver Cromwell n'a pas d'expérience directe des combats au départ. C'est un gentleman de l'East Anglia, qui est cette espèce de boss qui va vers l'est de l'Angleterre, donc c'est de la région de Cambridge, donc il vient de cette région. Qu'est-ce qui l'intéresse dans la vie ? Eh bien, c'est la lecture de la Bible, d'une part, puis d'autre part, il aime élever les chevaux, Enfin, donc c'est vraiment le gentleman farmer dans toute l'acception du terme. Et ce gentleman farmer va se révéler au moment des combats, parce que la grande faiblesse de l'armée parlementaire, c'est qu'elle n'a pas de cavalerie face aux royalistes. La cavalerie royaliste est nettement supérieure à la cavalerie parlementaire, qui est là surtout, évidemment, des fantassins. Et donc, Cromwell va, instaurer une véritable cavalerie parlementaire, et c'est comme ça qu'il va se hausser, évidemment, au sommet de l'État.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on présente toujours a posteriori cette révolution anglaise dans tous ses aspects. On va bientôt venir à 1688, hein, bien sûr, mais on la présente, cette révolution anglaise, comme une révolution relativement pacifique et tranquille, qui aurait en quelque sorte bien tourné quand d'autres, celles de la France ou celles de la Russie, bien sûr, sont allées dans des excès beaucoup plus terribles. En vérité, cette révolution anglaise, c'est ce qui sort très clairement, c'est un des enseignements de votre livre, elle est terrible et elle va très loin dans la, comment pourrait-on dire, dans la transgression d'une certaine manière.
Oui, il y a eu évidemment des scènes absolument épouvantables, essentiellement d'ailleurs, il faut bien le dire, en dehors des frontières. C'est une des grandes forces des Anglais.
Ils règlent leur linceul à l'extérieur.
Exactement. Et en particulier les Irlandais qui ont été quand même les principales victimes de l'action de Cromwell. Il y a eu des massacres horribles en Irlande. Je me souviens, quand je faisais mon livre sur Cromwell, j'étais en Irlande et chaque fois j'avais des amis irlandais qui me disaient « Mais sur quoi travaillez-vous à l'heure actuelle ?» Et je répondais sur Cromwell et ils n'arrivaient pas à voir l'intérêt d'un tel sujet.
Oui, ça devait même les effrayer passablement.
Tout à fait.
Je veux dire, Cromwell a laissé l'image terrible d'une sorte de... un peu une sorte de Robespierre à l'anglaise, hein,
tout
si l'on peut dire.
Tout à fait. Mais de Bonaparte aussi,
oui d'ailleurs, parce qu'il avait quand même une dimension exécutive et c'était un homme d'action.
Et militaire.
Voilà. Oui. Mais ce personnage, en même temps, est devenu l'incarnation de cette tendance extrêmement dure, de ces puritains, hein, comme dans l'opéra. Et on a cette image-là encore sur le continent. Pour nous, la Révolution anglaise, c'est d'abord les modérés contre les puritains, d'une certaine manière. Et ce que vous nous dites, c'est que cette révolution, c'est d'abord et avant tout la construction d'une identité nationale. C'est là que la Grande-Bretagne vient puiser ses vraies racines, en vérité.
Je crois qu'il y a une actualité de ce livre, si vous me permettez de le dire de cette façon-là, parce que ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni, ce qu'on appelle maintenant le Royaume-Uni depuis le XVIIIe siècle, étaient véritablement des constructions politiques et en l'occurrence même des constructions militaires. Et c'est étonnant de voir comment la volonté monarchique d'unifier les trois royaumes a été menée à bien en réalité par la République. Il y a une continuité entre la monarchie et la République que j'ai placée au cœur même de ce livre, parce qu'il est trop simple de faire, comme beaucoup d'historiens l'ont fait dans le passé, d'opposer terme à terme un roi qui aurait été nécessairement stupide et sans vision d'avenir, et puis évidemment, de l'autre côté, un camp des parlementaires qui aurait incarné le progrès, l'avenir, etc. C'est totalement faux, je m'inscris en faux contre cette allégation. Je montre la cohérence de la démarche monarchique qui veut véritablement unifier les trois royaumes et d'une certaine façon qui a eu raison parce que c'est l'histoire qui a accompli en définitive ce que la monarchie souhaitait.
Oui, et finalement le projet est allé à son terme.
Exactement.
Et il est devenu fécond. C'est quand même pas banal et c'est ce qui fait la différence. Alors, il y a bien deux révolutions. Une première révolution anglaise du début des années 1640 à la fin des années 1640, ça couvre toute la décennie et ça part d'une guerre civile. On va y revenir et clarifier les choses dans un instant. Et puis une deuxième révolution qui est plus politique d'une certaine manière, la deuxième révolution anglaise de 1688-1689, un siècle avant la nôtre si je puis dire, et qui, vous allez le voir, avait déjà tout inventé.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Révolution anglaise cet après-midi. Votre invité Franck Ferrand, le professeur émérite à l'université de Versailles-Saint-Quentin, monsieur Bernard Cotteret. Vous avez écrit le livre La Révolution anglaise 1603-1660 chez Perrin et nous avons reçu de nombreuses questions et messages d'auditeurs.
Je suis presque surpris par le grand nombre de réactions. Il y a comme ça des sujets qui suscitent des réactions des auditeurs et d'autres moins. Alors là notamment nous avons David du Havre qui nous abreuve de questions si je puis dire. Alors, je ne peux pas toutes vous les poser Bernard Cotteret, mais il y a cette mise en regard de Louis XVI avec Charles Ier, de Cromwell avec Robespierre. J'ai presque envie de dire attention quand même, hein, on ne peut pas établir trop de parallèles. Évidemment qu'on a toujours tendance à rapprocher une révolution d'une autre ou un événement d'un autre, mais en l'occurrence on est bien dans des circonstances et avec des personnalités bien distinctes et même très différentes. Question plus générale que pose David, pourquoi le Royaume-Uni est-il, après avoir tué ce roi, resté une monarchie? C'est vrai que c'est une question quand même.
Alors, il n'est pas resté une monarchie, il l'est redevenu. Voilà. C'est-à-dire que tout de suite après la mort de Charles Ier, Charles Ier est encore exécuté en tant que roi. Il faut bien le voir, il est encore roi à ce moment-là. On proclame au lendemain de sa mort la République, et cette République ne va pas durer, tout simplement. Elle va devenir un régime de plus en plus autoritaire avec Cromwell, qui va devenir Lord Protector, ce que je traduirais par une espèce de tyran, enfin véritablement, de dictateur au sens antique, c'est-à-dire c'est le général qui dispose de tous les pouvoirs, des pleins pouvoirs surtout, et évidemment ce régime eh bien n'arrive pas à se pérenniser. Et il y a une catastrophe après la mort de Cromwell, son fils Richard essaie maladroitement de lui succéder, et le grand problème de Richard, c'est que dans le fond il est normal, et que...
Ah oui, il n'a pas du tout la nature, il n'a pas hérité la nature de son père.
Hein. La nature de son père, et qu'il ne peut pas évidemment avoir la même autorité que Oliver Cromwell. Et donc le régime ne survit pas véritablement à Oliver Cromwell, et les Stuarts reviennent, et j'allais dire que depuis, eh bien, ils sont toujours là. Enfin, la monarchie est toujours là. Peut-être pas les Stuarts, mais la monarchie en tout cas.
N'oublions pas que la famille royale d'Angleterre, les Stuarts, se sont réfugiés en France
pendant un long moment avec Jacques II. Et là, on est dans la deuxième révolution dont vous parliez, Franck, 1688-1689. Et là, c'est une révolution beaucoup plus habile d'une certaine façon, parce que c'est une révolution sans pratiquement les aspects révolutionnaires. C'est-à-dire que là, on n'a pas tué le roi, surtout on l'a prié de partir le plus vite possible, ce qu'il a fait ne comprenant pas toujours le message, et il est allé s'installer, où ça? À Saint-Germain-en-Laye. en Laye. Mmh. Et on le voit mourir à Saint-Germain-en-Laye quelques années plus tard, au tout début du XVIIIe siècle.
Le rôle de Louis XIV là-dedans est assez étonnant. D'ailleurs, enfin, on va pas revenir sur les relations franco-britanniques. Nous avions fait une émission ensemble sur ce sujet. On aura peut-être l'occasion d'en faire d'autres. Cette première révolution, celle qui nous intéressait tout à l'heure, hein, celle qui va aboutir à la mort de Charles Ier, cette première révolution est née d'une grande rébellion, elle est née d'une guerre civile en fait.
Elle est née d'une guerre civile, et ce qui est important, c'est de voir cette complexité des îles britanniques que beaucoup à l'heure actuelle ne comprennent pas encore à l'heure actuelle. Beaucoup de gens, par exemple, j'ai entendu des commentaires absurdes lors du référendum écossais, certaines personnes disant l'Écosse est une région d'Angleterre. Eh bien non, l'Écosse n'a jamais été une région d'Angleterre.
L'Écosse,
c'est un Royaume-Uni parce qu'il y a des entités distinctes, et ces entités sont toujours distinctes. Et on peut se demander si elles ne sont pas appelées à le redevenir dans l'avenir, même voire dans un avenir proche peut-être. Donc il y a là une réalité, comment dire, qu'il faut toucher du doigt, et l'histoire de la Révolution anglaise montre très bien combien cet équilibre a toujours été un équilibre instable.
Oui, avec des peuples qui sont
différents.
Qui sont très fiers de leur identité, en l'occurrence.
Très attachés à leur identité.
Attachés,
faut surtout pas dire à un Écossais qu'il est anglais.
Et voilà, bien entendu.
Ni à un Anglais qu'il est écossais ou irlandais. Vous le vexez terriblement.
Alors, comment s'alimente-t-elle? De quoi s'alimente-t-elle, cette première révolution?
Alors, cette première révolution, je crois que on a beaucoup insisté dans le passé sur deux choses. La première, on a voulu trouver des causes sociales à la révolution. Moi, personnellement, je n'y crois pas tellement. Non pas qu'il n'y ait pas, évidemment, toujours des enjeux économiques et sociaux, mais véritablement, je pense que la révolution est née de la volonté royale. C'est la monarchie elle-même qui a initié la révolution en voulant fusionner les trois royaumes. Et c'est là qu'est partie véritablement l'étincelle révolutionnaire. Et puis, petit à petit, la monarchie elle-même a été victime de cette révolution. Et puis, je dirais qu'elle est revenue in fine. C'est-à-dire qu'in fine, c'est quand même la monarchie qui revient et qui donc, d'une certaine façon, remporte la mise.
Il y avait, dès le XIIIe siècle, en Angleterre, les ferments de ce parlementarisme qui, un jour, deviendrait une puissance suffisamment forte et autonome pour oser affronter la monarchie. En fait, c'est vieux, ça, en Angleterre.
C'est quelque chose de très, très vieux. Évidemment, on songe toujours à cette Magna Carta de 1215, lorsque les barons arrachent, effectivement, à Jean sans Terre la promesse, comment dire, d'une certaine liberté, au moins parlementaire.
Est-ce qu'on n'est pas passé à côté de cette révolution en France, si je puis dire?
De 1215 ou...
Non, pardon, je parle de celle des années 1640, en fait, et accessoirement, la révolution politique de 1688-89.
C'est pour ça que j'avais écrit ce livre sur 1688-1689, qui vient de ressortir il y a un an.
Oui, ça, c'était votre ancien ouvrage.
Oui, j'avais écrit ce livre, figurez-vous, précisément pour 1988, c'est-à-dire un an avant la commémoration de la révolution française. C'est une façon pour moi de dire attention, mesdames et messieurs les Français, n'oubliez pas qu'il y a des choses qui sont passées de l'autre côté de la Manche avant nous, en fait. Et évidemment, le message n'a pas toujours été compris, mais je crois qu'il était très important dans mon esprit, dans celui de l'éditeur. Et effectivement, la révolution de 1688-1689 est une révolution tout à fait intéressante parce que c'est une révolution en même temps libérale. Et nous avons évidemment une vision nécessairement sanglante des révolutions.
Évidemment.
Mais il y a des révolutions qui peuvent ne pas être sanglantes. Et du moins, je l'espère.
Ce n'est pas un hasard, sans doute, si c'est le grand historien libéral du XIXe siècle, post-révolutionnaire et ô combien, Guizot en personne, qui va le mieux comprendre, dites-vous, cette révolution anglaise.
C'est pour ça que je rends hommage en permanence à Guizot, qui, à mon avis, est le grand historien François Guizot, le ministre de Louis-Philippe, qui est le grand historien au XIXe siècle de l'Angleterre et qui a très bien compris, justement, en raison de son libéralisme. Et vous savez également que, Franck, que la tradition libérale en France fait toujours l'objet d'un dénigrement presque systématique. Quand on parle de libéralisme, c'est presque un vilain mot en France.
Oui, bien sûr.
Je regrette pour ma part.
Oui, mais enfin, en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que le libéralisme a progressé en France, et beaucoup quand même.
Écoutez, j'espère qu'il va continuer.
En tout cas, vous essayez de tirer les leçons de cette révolution sur un plan intérieur. Donc ça, on a bien compris ce que ça avait apporté sur un plan territorial, sur la structuration de cette nation du Royaume-Uni, et également sur un plan religieux et même moral. Bon, ça, très bien. Ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de voir quelles sont les conséquences universelles de cette révolution. Qu'est-ce qu'elle a apporté à la pensée politique? Qu'est-ce qu'elle a apporté comme modèle au monde?
Et vous savez, les Anglais ont toujours, et je dis les Anglais là, je ne vais pas dire les Britanniques, mais bon, entendez aussi les Britanniques, ont toujours eu une conception très spécifique de leurs droits et de leurs devoirs. Et vous savez que l'un des enjeux actuels avec David Cameron, depuis la victoire aux élections dernières, l'un des enjeux actuels de la contestation de l'Europe, c'est cette volonté justement d'être de plus en plus anglais et britannique, de ne pas suivre nécessairement les modes européennes, et en particulier de renoncer à cette question des droits de l'homme. Évidemment, en France, c'est très mal compris parce qu'on dit qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la dictature. Non, c'est pas du tout ce que
les Anglais et la dictature, ça fait deux.
Non, c'est pas du tout ce qu'ils veulent, justement. Ce qu'ils veulent, c'est un Bill of Rights. Un nouveau Bill of Rights. C'est-à-dire, il y a cette idée que déclarer les droits de l'homme comme universels, dans le fond, c'est faire fausse route, parce que ce qui est important pour les Anglais, c'est de s'occuper des Anglais, que les Français en fassent d'eux-mêmes, qu'ils s'occupent des Français. Mais c'est cette volonté d'arriver toujours à des modèles universalisables, c'est profondément étranger à la pensée anglaise.
Mais néanmoins, cette révolution a donné des leçons au monde et a donné des exemples au monde. Voltaire, notamment, va beaucoup s'inspirer de ce qui s'est fait en 1688-1689 sur un plan de fonctionnement parlementaire, sur le plan fiscal, ne l'oublions pas, sur celui de l'intégrité de la personne, etc.
Sont quand même effectivement, les hommes des Lumières, vous citez Voltaire, il faut évidemment ajouter immédiatement Montesquieu.
Oui,
puis il y a d'autres esprits moins connus, moins célèbres, qui ont regardé du côté de l'Angleterre, à mon avis, parce que ce sont les libéraux en général qui ont regardé du côté de l'Angleterre, jusqu'à Guizot.
Oui. Et non seulement ils ont regardé du côté de l'Angleterre, mais ils ont essayé de s'en inspirer.
Et ils ont essayé de s'en inspirer. Et il reste aussi une expérience absolument prodigieuse que les Français ont adorée, parce qu'on voit les réticences des Français, mais les Français ont adoré. Vous citiez tout à l'heure, évidemment, Alexandre Dumas. On peut parler aussi de Victor Hugo. Qui a écrit sa pièce Cromwell, qui est quand même une très grande pièce aussi. Une réflexion tout à fait fabuleuse sur ce qui s'est passé en Angleterre. Donc les Français, en particulier la génération romantique, a beaucoup appris de la Révolution anglaise.
La Révolution anglaise, 1603-1660, de Bernard Cottret, s'est publié par Perrin dans la collection Pour l'Histoire.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est une question d'Adrien cet après-midi. Il vous demande, Franck Ferrand, via la page Facebook de l'émission, quelles sont les origines du tatouage?
Il y a une pagaille dans cette régie où tout le monde est en train de se montrer ses tatouages. C'est incroyable. Alors, c'est très vieux les tatouages, évidemment. Vieux comme le monde, les plus anciens qu'on connaisse, ce sont ceux qui ont été relevés sur le corps d'Ötzi. Vous savez, on avait parlé de cette momie des neiges, Ötzi. On était en 5300 avant notre ère, vous imaginez. On en trouve chez les Égyptiens, enfin partout, bien entendu, avec deux types de connotations très différentes. Vous avez des tatouages qui sont quand même singulièrement négatifs. N'oubliez pas qu'autrefois, chez les Grecs, chez les Romains, c'était les esclaves qu'on tatouait. On les tatouait au nom de leur maître. Les légionnaires romains aussi portaient le nom de leur général, ainsi qu'un aigle, généralement, en tatouage. En Europe, ce tatouage va subir, en 787, dans l'Europe chrétienne, il va subir une interdiction, parce que pour l'Église, c'est la marque du démon. Vous connaissez l'injonction « tu ne te laisseras pas marquer du signe de la bête ». Il y a un peu cette dimension là dans le tatouage. On s'est servi beaucoup du tatouage au Japon, en Chine, comme une marque infamante pour punir les criminels, pour désigner les prostituées, etc. etc. Et ce sont les navigateurs du XVIIIe siècle qui vont donner au tatouage une toute nouvelle dimension, et alors là, qui devient une dimension positive. Est-ce que ces navigateurs se sont inspirés d'un certain nombre de populations très éloignées? On a quand même envie de se poser la question, parce qu'alors, si l'on cherche des origines positives du tatouage, c'est évidemment dans les régions de l'Océanie qu'il va falloir aller les chercher d'abord. Et je pense évidemment à la Polynésie, où on utilise le manche d'un bambou auquel est fixé un os d'oiseau, ou même parfois une dent de poisson, pour apposer la couleur et faire ces espèces d'extraordinaires tatouages qui sont de véritables décorations corporelles. Le tatouage, dans certaines des populations de cette région, est une sorte de... C'est un rite de passage, si vous voulez. J'allais dire, c'est une sorte de baptême, d'une certaine manière, selon les régions, ce tatouage peut même faire office de marqueur social, bien entendu, ça peut devenir une marque de puissance. Certains tatouages dans des zones particulièrement sensibles sont un signe de résistance à la douleur, donc de virilité, etc. etc. Chez les Maoris, en revanche, me dit-on, c'est chez la femme que le tatouage prend un caractère érotique, et particulièrement s'il est fait D'après vous, où ? Eh bien, s'il est fait, sur le visage, bien entendu. Mais je ne vois pas pourquoi tout le monde d'un seul coup se tait et me regarde avec ses yeux concupiscents. Bon, il y aurait beaucoup à vous dire sur le tatouage. J'ai très envie de répondre à Adrien qui nous posait cette question et qui est peut-être tatoué lui-même, qu'en fait, les origines du tatouage se perdent plus ou moins dans la nuit des temps.